Il est 19h et quelques secondes sur le 101.5 de Radio G. Nous sommes le lundi 13 février 2023 et l'heure que vous voulez si vous écoutez ce podcast sur le www.radio-g.fr. C'est l'heure de la case de Seb et au programme ce soir, on va parler d'école, pas mal d'école et encore un peu d'école, même si c'est déjà les vacances. On commence tout de suite après le générique.
Sauvez-vous tous !
Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis, message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman. Et venons-en au fait.
Rappelez vite! Tu n'es pas chez toi ici!
Justement! Les touristes là-bas!
Nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
Tout ce que vous allez voir et entendre sur le 101.5 de Radio G. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la case de Seb, l'émission qui par le truchement des ondes radiophoniques va propulser directement dans votre cerveau les plus belles images issues de la BD franco-belge, du manga et du comics. Seb au micro, nous sommes ensemble pendant une heure et j'espère qu'on va passer un bon moment. Et j'ai le plaisir ce soir d'être accompagné par Amy Bill. Bonsoir Amy.
Bonsoir.
Alors on va prendre le temps de se poser tranquillement, mais tu es venu nous parler de du troisième tome de ta BD. Alors on a un petit décalage dans le temps parce que c'est sorti.
Oui, c'est sorti au mois de novembre. Ouais.
Et du coup. On va reprendre tranquillement tout ça. J'ai fait une petite thématique de BD qui parle un peu d'école. Alors, il y a un peu de tout. On va prendre le temps. Pour commencer, est-ce qu'éventuellement tu veux te présenter, nous dire qui tu es et comment tu en es venu à la bande dessinée?
Oui, donc Émilie.
N'hésite pas à parler bien proche du micro.
Je suis angevine, née à Angers. J'enseigne à Angers. Je suis professeure des écoles dans la Doutre depuis une dizaine d'années maintenant. Mon métier m'a amenée à dessiner ce que je vivais au quotidien avec mes élèves, puisque ils me font rire. Pas toujours, mais ils me font parfois rire et mettre ce que je vis avec mes élèves sous forme de bulles et de vignettes, ça m'a paru il y a 7 ou 8 ans évident. Je trouvais que ça allait très bien avec le format BD, donc j'ai commencé par ouvrir un blog, une page Facebook qui ont pris des proportions de plus en plus conséquentes. Et puis j'en suis venue à faire une première bande dessinée en 2019, Ma vie d'instit, qui a bien marché. Et donc tome 2, tome 3 dans la foulée.
Ok. Et comment tu te dis, tiens, je vais faire ça en dessin? Est-ce que c'était un média avec lequel tu avais déjà...
J'ai toujours aimé dessiner.
Okay.
Mais par contre, le format bande dessinée, je ne peux pas dire que j'en ai toujours fait, parce que ce serait faux. Je m'y suis mise vraiment en même temps que j'ai ouvert mon blog. Donc d'ailleurs, quand on va sur mon blog, au tout début, les dessins sont un peu gauches, pas très adroits. On voit l'évolution, en fait. Je me suis formée sur le tas.
Et à l'école, tu étais un petit peu la mauvaise élève qui préférait dessiner dans les marges de cahiers plutôt que depuis le cours.
Alors la mauvaise élève, non, mais je dessinais dans les marges de mes cahiers, oui, carrément.
Tu t'ennuyais un petit peu parce que tu avais un peu d'avance, alors du coup...
Oui, puis en fait, ça me permettait de m'aider à me concentrer.
Okay.
De dessiner, de griffonner. Je le fais encore quand je suis au téléphone, d'ailleurs. Ce n'est pas pour autant que je ne suis pas attentive à ce qui se passe. Et là, quand j'ai des élèves parfois qui dessinent pendant que je parle, je ne les empêche pas parce que je sais que chez certaines personnes, ça peut être un moyen pour mieux écouter.
Ça n'empêche pas de... Ok.
Ouais, vraiment.
Moi, j'ai essayé de dessiner quand j'étais à l'école. Du coup, moi, je me faisais choper parce que je n'étais pas bon.
Et oui, ouais. Faut être un peu discret peut-être, ouais.
Ouais, et puis, voilà, il faut aussi... Je sais pas, je pense qu'il y a pas mal d'automatismes dans le dessin qui font qu'à un moment, ça se fait presque tout seul sans que ce soit vraiment un geste conscient.
Oui, c'est sûr. Ouais. Bon, puis je pense que quand j'étais à l'école, je faisais un peu tout le temps la même chose. Finalement, il n'y avait pas tellement de recherche.
Après, si ça permet justement de se faire la main et puis de...
C'est sûr, ouais.
Et du coup, tes techniques de dessin, c'est quoi un petit peu? Que du numérique?
Ouais, que du numérique. Sauf en dédicace, évidemment, où je fais...
C'est un peu moins pratique.
Voilà, c'est ça. En dédicace, j'ai mon petit crayon de bois et mes feutres, voilà. Mais sinon, c'est tablette graphique, une petite Wacom avec écran et puis Photoshop.
Ok.
Voilà.
Et ça marche bien? Est-ce que tu vois vraiment une différence, des côtés beaucoup plus pratiques en numérique ou...
Ouais, alors au début j'ai eu du mal à m'y faire, hein. Il faut vraiment apprivoiser l'outil, c'est pas pareil que papier crayon. Par contre, on peut multiplier les calques à l'infini, et moi ce que j'adore dans le dessin c'est la colorisation. Ajouter des ombres, de la lumière, et du coup je peux ajouter autant de calques que je veux, et il n'y a pas de trace si je me trompe, je peux effacer, gommer, enfin c'est multiple les possibilités qu'on a avec
Photoshop. Il y a un côté pratique en fait.
Ouais.
On rate, on n'est pas obligé de tout recommencer,
ouais,
on
voilà.
change juste.
Voilà, on fait des brouillons, on n'est pas obligé d'en faire 15, on peut en faire 50. On peut couper des parties du corps d'un personnage pour changer de mouvement. Enfin, c'est infini quoi. Et encore, moi je suis autodidacte, donc j'utilise quoi 20% de ce que je pourrais faire en fait avec ma tablette et le logiciel. J'apprends chaque jour.
Ce qui est un petit peu ce que tu fais à l'école, oui. Tu apprends aux autres, là tu apprends toute seule.
Exactement, ouais, je m'entraîne et j'apprends.
Tu n'as pas eu l'envie de prendre de cours complémentaires de dessin ou peut-être un manque de temps?
Ouais, c'est ça, je pense c'est beaucoup un manque de temps et puis j'aime bien faire mes petits trucs dans mon coin en fait. je fais ça toute seule.
Ok, et la réception publique des albums, ça a donné quoi? Alors public et pro? Parce que du coup, tu as forcément été confronté aux avis aussi d'autres dessinateurs.
Ouais.
Comment tu perçois à la fois du côté... Il y a deux questions en une. Il y a comment tu as perçu l'arrivée dans le côté dessinateur par d'autres dessinateurs pros. Et après, comment les élèves et puis les parents ont pu, ou le public classique, on va dire, a pu percevoir tes albums.
Le côté dessinateur pro, j'ai été bien accueillie.
Plutôt bienveillant les gens?
Ouais, carrément.
Ok.
Et puis en fait, le fait que je dessine des choses rigolotes sur les enfants, ça parle à tout le monde. Parce que même si les gens ne sont pas forcément enseignants, tout le monde a dans son entourage des enfants. Et les mots rigolos que peuvent avoir les enfants, ils n'ont pas forcément qu'à l'école du coup. Et du coup, ça parle aux gens. Et c'est gentil, c'est pas dans la polémique, c'est pas de l'humour un peu beauf de prof non plus, donc je pense que ça plaît. Et puis, j'ai pas rencontré énormément d'auteurs, hein, mais à Angers BD particulièrement, j'ai toujours été bien entourée, j'ai toujours eu des voisins hyper sympas, c'est toujours un plaisir de venir.
On essaye, alors je prêche ma parole du coup, mais vraiment qu'il y a un côté convivial, ouais. Et agréable. Donc,
Ouais, bah ça marche.
Venez, si vous êtes auteur en BD, n'hésitez pas à nous contacter, on accueille plein de monde. Du coup, il y a trois albums actuellement, il y a une petite différence sur le troisième, on y reviendra tout à l'heure. Comment tu penses que tu as évolué sur les trois albums? Quel est ton regard critique, on va dire, sur ton propre dessin, sur les albums?
Alors au niveau du trait, c'est comme je disais tout à l'heure, en fait, mon trait il a évolué, ça fait pas très très longtemps que je dessine, donc dans le tome 1, il y a moins d'unité je trouve dans les dessins. Alors c'est peut-être mon regard à moi, peut-être que quelqu'un qui découvre mes livres ne voit pas trop la différence, mais moi je le vois, parce qu'en plus dans le premier j'ai compilé des dessins que j'avais dessinés sur 2-3 ans, donc il y a forcément une évolution. Par contre l'humour reste le même, je pense.
Je confirme.
Ouais. les paroles des enfants, leur façon de parler est toujours identique. Je la représente toujours de la même manière. Donc après, ça va être plus mon trait. Peut-être que mon personnage d'enseignante, peut-être que je le ridiculise un peu plus dans le tome 3 et dans le tome 2 que dans le tome 1. Dans le tome 1, j'avais peut-être plus l'envie de dessiner une belle maîtresse, toute fine, toute longiligne, un peu princesse. Et je me dis, ouais, voilà. Et je me dis que dans le 3, elle est un peu rouge, la maîtresse. Elle est un peu échevelée des fois. Elle a des cernes. Elle transpire, voilà.
Ouais, bon, même dans le premier. Hein.
Oui, il y a aussi dans le premier un peu, mais...
Elle est peut-être un peu moins idéalisée.
Ouais,
du coup,
voilà. Ouais.
Elle a peut-être plus le côté un peu plus brut du métier.
C'est ça, carrément. Puis elle a de l'expérience aussi, donc elle a vieilli, ouais. Elle est fatiguée. Ça se ressent dans mon trait, je pense.
Et c'est ça aussi qui est intéressant avec tes albums, c'est qu'on voit ton évolution. Je vais être la meilleure maîtresse du monde à toutes les déconvenues que peut importer le métier qu'on n'imagine pas en fait en étant à l'extérieur.
Oui, c'est vrai, ouais.
Mais toujours avec ce regard, avec cette petite pointe d'humour en fait qui fait que, bon, d'accord, à mon avis, c'est mon ressenti, mais il y a eu des journées qui n'ont certainement pas été faciles dans cette évolution-là, mais il y a toujours ce petit côté, bon, allez, maintenant c'est passé, on met une petite couche d'humour.
Ouais, en fait, c'est ce que je m'efforce de faire. Les choses qui peuvent être agaçantes au quotidien, je les dessine de manière humoristique parce qu'en fait, sur le coup, c'est agaçant, mais avec du recul, c'est drôle. Donc, j'essaie toujours de tourner tout à l'humour pour dédramatiser, que ce soit pour moi ou pour mon lectorat, pour toujours avoir cette touche d'humour, ouais. Et puis ce côté positif.
C'est presque une petite analyse en BD, en fait.
Ouais, un peu, ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, les gens, c'est ce que les gens me renvoient en salon ou sur les réseaux. On me dit, ah là là, ça fait du bien, merci. Au moins, on n'est pas les seuls à vivre ça. Au moins, les gens, ils voient ce qu'on vit.
C'est sûr que, encore une fois, je parle de mon vécu, mais étant parent, on voit toujours la maîtresse qui essaie d'être sérieuse, qui essaie de cadrer. Et des fois, on a envie d'être cette petite souris qui se glisse dans la classe pour voir comment se comportent les enfants.
Ah bah, puis la maîtresse sérieuse, elle l'est devant les parents, mais devant les enfants, elle fait des blagues. Des fois, elle ne se prend pas au sérieux. C'est important.
Ah bah, c'est rire. Puis ça crée une différence, on va dire, d'autorité entre ce qui se passe à l'école et ce qui se passe à la maison.
Oui, c'est clair.
Ça permet d'avoir...
Ah, puis en tant qu'enseignant... On arrive plus à mettre le cadre auprès de nos élèves que des parents avec leurs enfants. Enfin, moi, je le vois en tant que maman, mes enfants m'obéissent moins que mes élèves. Hein. Faut être clair.
C'était un petit peu frustrant quand même.
Oui, ça l'est, ça, je te le confirme.
Comme quoi, on se dit qu'il y a des méthodes qui marchent, mais quand on applique les méthodes à l'école et à la maison,
c'est pas pareil. Voilà.
Et les enfants, comment ils ont perçu ma vie d'instit? Parce que du coup, tu décris des enfants, enfin, tu parles, c'est des mots d'enfants existants. Comment ils ont pris ça? Est-ce qu'ils le savent?
Oui, ils le savent. Ils sont assez fiers. Et des fois, ils poussent le truc un peu loin. C'est-à-dire que ceux qui ont lu les BD, ils vont faire exprès de refaire les perles que j'ai dessinées pour me faire rire. Donc, par exemple, quand j'explique une consigne et qu'on me demande 3 secondes après ce qu'il faut faire... Il y a des enfants qui vont faire exprès de reposer la question pour faire le petit clin d'œil à la BD. D'accord. Ils le font en me regardant, en souriant.
Pour montrer qu'ils l'ont bien lu.
Voilà, c'est ça. Et puis je pense qu'il y en a aussi des fois qui essaient un peu de faire des trucs pour, exprès pour que je les dessine. Mais ça, je leur dis bien, mais je ne vais pas vous dessiner vous, je vais changer votre prénom, je vais changer votre coiffure, la couleur de vos cheveux, de votre peau, de vos yeux. Je ne veux pas qu'il y ait de jalousie entre eux, en fait.
Oui, c'est du vécu, mais anonymisé
quand
même.
Voilà, c'est ça.
Donc il y en a qui font exprès quand même.
Oui.
C'est quelque chose que tu biaises un petit peu dans le troisième tome, puisque ce ne sont pas que des vécus à toi.
Exactement. En fait, à la base, je ne voulais pas forcément faire de tome 3, parce que je ne voulais pas que ce soit redondant. Je me disais, tome 1, tome 2, c'est bien, maintenant il faut passer à autre chose. Et puis j'avais d'autres projets en tête. Et puis, j'avais quand même envie de rester dans l'actualité littéraire. Et j'avais aussi le besoin de remercier ma communauté, parce qu'en fait, si j'ai réussi à faire des bandes dessinées papier, c'est parce que j'ai été suivie sur les réseaux sociaux, donc c'est grâce à ma communauté. Donc j'ai eu envie de faire appel à tous ces gens qui me suivent, et je leur ai demandé de m'envoyer leurs perles. Donc c'est ma vie d'instit tome 3, les perles de vos élèves. Donc je dessine ce que les gens m'ont envoyé. Donc il y a des choses qui se recoupent avec ce que moi je vis, mais il y a aussi des choses nouvelles. Ça m'a donné une petite bouffée d'oxygène supplémentaire. Ça a ouvert un peu ma pratique.
Et puis ça permet d'avoir un vrai échange avec la communauté, du coup.
Oui, carrément. Ouais. Alors j'ai dû faire du tri, hein, parce que j'ai eu beaucoup d'anecdotes.
Combien, tu sais, à peu près?
Juste sur le post Facebook, j'avais plus de 700 commentaires.
Ça fait combien de pages déjà, l'album?
144.
Donc j'ai dû faire un tri.
Alors, il y a des choses qui étaient les mêmes. Hein. Toutes les blagues sur l'alcool, papa, il picole, ou papa, il aime bien boire l'apéro, ça, j'en avais plein. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, peut-être qu'il faut se poser des questions, les papas. Mais j'ai dû quand même faire un tri, quoi, parce qu'on m'en a envoyé aussi en message privé, par mail, sur Instagram. Enfin, ça a été l'avalanche de perles. Donc je m'en suis aussi mise sous le coude pour en redessiner après pour
Un prochain
après.
Tome.
Ouais, ou même comme ça sur les réseaux plutôt quoi.
Bon. Alors je regarde, je suis l'heure un petit peu pour essayer de dispatcher. Ce que je propose, c'est qu'on fasse une petite pause musicale et puis on continue juste après.
Allez.
Qu'est-ce que je mets tiens, on va mettre Pour louper l'école d'Aldebert. Allez, on se retrouve dans quelques minutes sur le 101.5 de Radio G.
Allez les kids, c'est l'heure. Allez, debout, faut y aller là.
Pour louper l'école, je ferai n'importe quoi. Pour louper l'école, moi j'irai jusqu'à
faire le tour de la maison en pyjama pour choper froid, manger des tartines au goudron pour avoir mal à l'estomac.
Faire mon service militaire, traverser la Manche en bouée, chatouiller une panthère, faire pipi sur un policier.
Pour louper l'école, je ferai n'importe quoi.
Pour louper l'école, moi j'irai jusqu'où?
Pour louper l'école, je ferai n'importe quoi.
Pour louper l'école, moi j'irai jusqu'à
devenir magicien pour me faire disparaître. Prier pour que les martiens m'enlèvent sur leur planète. Prendre en otage ma petite sœur, terminer mes chutes de Bruxelles. Manger des crayons de couleur pour vomir un arc-en-ciel.
Sans armes contre un gladiateur, je serai prêt à me battre.
Imiter les cascadeurs, espérer finir dans le plâtre.
Avaler de son limace pour effrayer les hostiles.
Faire sauter la salle de classe à la dynamite.
Pour louper l'école, je ferai n'importe quoi.
Pour louper l'école, moi j'irai jusqu'à.
Pour louper l'école, je ferai n'importe quoi.
Pour louper l'école, moi j'irai jusqu'à.
C'est sympa, mais c'est sans moi.
Oui, j'ai eu cette idée folle un jour d'éviter l'école.
Bon, allez, là, faut y aller maintenant.
Non,
si, si, vous y allez.
Bah, pourquoi?
Mais vous avez signé, vous y allez.
Mais on n'a rien signé, Zouzou.
Arrête.
On veut pas y aller, on préfère rester couché. On les mains, faut la main. La maîtresse en maille pas. On veut pas y aller, on préfère rester couché. Les cahiers, on veut la maîtresse en ligne.
Jouer à Fortnite sur les mains, emménager à la cantine, chanter du Black M en latin, me faire tatouer les canines,
passer la nuit sans wifi, me parfumer mon Roquefort.
Vous êtes de retour sur le 101.5 de Radio G. C'est de nouveau la case de Seb. Je suis toujours en compagnie d'Amy Bill avec laquelle on parle de ses ouvrages. On parlait du tome 3 qui est fait avec la communauté. Comment ça t'est venu, cette idée justement de faire appel à la communauté? C'était naturel, direct ou
Ah ouais, ça m'est venu totalement naturellement parce que ma communauté est composée à 80% d'enseignants. Si ce n'est 90, voire plus. Et quand je publiais des dessins, enfin, quand je publie des dessins, les gens, ils y vont tous de leur petite anecdote, même sans que je leur demande. Et du coup, ça me paraissait logique de leur demander. Et puis, bah, pour eux, je trouve que c'est un beau cadeau de voir leur anecdote dessinée, en fait.
Bah, c'est un bel échange, effectivement.
Ouais.
Tu as donc ta communauté, on peut la trouver sur Facebook, Instagram, tu as un blog dédié?
Oui, alors j'ai un blog que j'alimente pas au même rythme que Facebook et Twitter, mais il y a beaucoup moins d'interactions du coup parce que il y a pas de commentaires et tout, et voilà, mais c'est bon, c'est pour les gens qui veulent pas trop aller sur les réseaux sociaux, ça leur laisse quand même une porte d'entrée pour voir mes dessins quoi.
Et c'est quoi l'adresse si on
C'est
veut
pour mieux te croquer, blogspot.fr.
Ok.
Ouais.
Et sur Instagram,
Emibille PMTC pour mieux te croquer.
Ok. Et pareil sur Facebook.
Et Facebook, ouais, j'ai changé au début, c'était pour mieux te croquer Emibille et j'ai fait pareil, j'ai fait Emibille pour mieux te croquer, pour que ce soit dans le même ordre.
On te trouve sur d'autres réseaux ou pas?
Je suis sur Twitter aussi. Pareil, Emibille PMTC. Et c'est tout.
C'est déjà pas
mal. Ouais. Quand je publie un dessin, j'avoue qu'il faut que j'aille sur tous les réseaux, là, ça me prend un petit peu de temps.
Ça demande un petit moment. Mm. Est-ce qu'on peut parler du coup de l'évolution de l'ouvrage en lui-même? Tu as commencé chez... alors c'était dans le... je suis perdu. Fais le mieux que moi.
C'est City Edition qui m'a contacté. Okay. Et le premier tome, ils l'ont publié dans leur collection Idéo.
Ok.
Et puis, comme ça avait bien marché, ils ont décidé de mettre en valeur le deuxième en le publiant sous leur nom d'éditeur, voilà, City. Et puis pareil pour le troisième.
Donc c'est une progression en fait dans la gamme de ce qui est proposé par l'éditeur.
Voilà, ouais. Cool. Je suis contente, ouais.
Et comment t'as reçu justement le fait qu'on vienne te chercher et te dire, bah tiens, on aimerait bien faire un bouquin avec ce que tu fais?
Au début, ça m'a surprise parce que je m'y attendais pas. J'avais pas du tout ça comme objectif. Moi, ça me convenait d'être sur les réseaux. Voilà, j'avais de plus en plus d'abonnés. C'était chouette. Puis quand on me disait, oh, bah tu vas faire une BD et tout, moi je me disais, mais non, ça me paraît trop énorme comme charge de travail. Je me voyais pas du tout le faire. Et puis quand j'ai été contactée par cette maison d'édition, ils m'ont dit qu'ils aimeraient bien publier une BD avec ce que j'avais déjà fait, plus quelques inédits. Donc ça, c'était un peu moins lourd déjà. J'ai dû retravailler des dessins, mais c'était pas que du neuf 100%.
C'est moins complexe que de créer de A à Z, quoi.
Voilà, c'est ça. Donc je me suis lancée et je n'ai pas regretté.
Et du coup, sur celle d'après, il y avait une créa quand même?
Il y a eu, c'était moite-moite, parce qu'il y a eu, il y a toute une partie où je présente mon début de carrière, okay, avec les remplacements que j'ai faits, le concours, mon premier poste avec 5 niveaux dans une seule classe, il y a de quoi raconter.
Challenge.
Ouais. Donc tout ça c'était de l'inédit, et puis après, puisque c'était de manière chronologique et je racontais mon arrivée dans mon école à Angers et donc la partie Covid qui m'avait pas mal inspirée, c'était des dessins que j'avais déjà publiés sur les réseaux, mais du coup je les ai remis dans le tome 2. Et puis après il y a toute une partie perles d'élèves aussi dans le tome 2 où il y a beaucoup de choses que j'avais déjà publiées. Et puis à la toute fin, par contre, c'est que de l'inédit. Je m'invente une vie d'actrice de cinéma. C'est comme s'il y avait
avec
un
beaucoup
film.
D'affiches détournées.
Ouais, voilà. Et puis la vie de la maîtresse, qui, où qu'elle soit, pense à l'école, en fait.
Est-ce que c'est vrai?
Oui. Ah oui, c'est vrai. Oui.
Dès que tu vois des choses, tu fais, ah ça, je pourrais en faire un petit atelier.
C'est ça. C'est ça. Carrément. Tu peux garder les bouteilles vides. Les rouleaux de papier toilette, c'est pratique pour les bricolages.
On a vu ça il n'y a pas très longtemps, un appel de l'école qui dit
ouais.
« Eh, on n'a plus de papier toilette, de rouleaux de papier toilette, vous ne pouvez pas nous en amener ?» Ok.
Il suffit d'un appel quand c'est comme ça et on récolte pas mal.
Et la suite de ma vie d'instit ou d'autres choses, c'est quoi l'avenir pour Emibille du coup?
Eh ben, du coup, là, je suis en train de peaufiner les derniers détails pour une bande dessinée qui sortira fin avril. Chez un autre éditeur, du coup, chez Michel Lafon. Ça s'appellera Journal d'Instit.
Ok.
Donc, c'est toujours sur les enseignants, mais cette fois, ce sont des histoires fictives. En fait, on va entrer dans la salle des maîtres, qui correspond à la salle des profs, mais en primaire. Et on va retrouver toute une équipe de profs qui racontent ce qu'il a vécu. Donc ça peut être la sortie piscine, ça peut être l'anniversaire d'un tel, voilà.
Ce sera plus le côté, c'est l'autre penchant. Là, on a beaucoup de la maîtresse et ses élèves.
Oui.
Là, ce sera vraiment le collectif enseignant.
Voilà, c'est ça, ouais. Et puis qui vident un peu leur sac le soir en se retrouvant autour d'un café.
Bon, c'est le caméra café des enseignants, quoi.
Oui, c'est un peu ça, ouais, carrément.
Et comment alors, on aura l'occasion d'en reparler, puisqu'on a déjà bloqué une date,
oui,
pour que tu reviennes en parler. Comment t'es venue cette idée-là et est-ce que c'est toi qui as été chercher l'éditeur ou comment ça s'est passé un petit peu ce projet ?
Alors, je suis allée chercher l'éditeur il y a presque un an avec un autre projet.
Ok.
Un projet de roman graphique sur lequel je travaille depuis 2 ans. Et chez Michel Lafon, ils étaient intéressés par mon projet, mais ils ne voulaient pas quelque chose de trop conséquent. Et moi, mon roman graphique, il me faut beaucoup, beaucoup de pages pour le faire. Mais ça m'intéressait quand même de travailler avec cette maison d'édition-là, j'ai réfléchi à un autre projet et je me suis dit, cette salle qui est un peu interdite aux élèves et aux parents, là, la salle des maîtres, il s'y passe plein de choses, ce serait rigolo de le dessiner, en fait.
Okay.
Donc voilà, j'ai proposé ça et ça leur convenait, donc voilà, on a signé, puis c'était parti.
Bon, t'as une date de sortie déjà ou...
Le 27 avril, ouais.
27 avril, ouais, ouais. Ça va venir vite.
Oui. Là, on peaufine. Là, je signe le tout d'ici deux semaines. Là.
Oh, c'est tout fini ou il y a encore des choses
On peaufine la couverture.
Ok.
Ouais.
Et là, tu parlais du coup d'avoir un peu de facilité sur Ma vie d'un site parce que tu avais des choses déjà faites que tu retravaillais avec quelques inédits. Là, de A à B, de A à Z, pardon.
Ça, c'est que du nouveau, là.
Et c'est plus tendu de créer un album de A à Z comme ça ?
Oui, et en même temps, c'était un beau challenge parce que ça m'a plu d'inventer des personnages. Puisque là, dans mes BD, la maîtresse, c'est toujours le même personnage que je dessine. Là, j'ai inventé des personnages, j'ai mis des hommes aussi, chose qu'il n'y avait pas trop dans mes bandes dessinées, dans les trois premières. J'ai bien aimé aussi d'avoir inventé des histoires, en fait, et ne plus fonctionner sous forme de petites planches.
Plus en strip, quoi.
Ouais, voilà. Là, c'est vraiment des histoires qui se suivent, donc... Autre challenge, et j'étais motivée par ça. Puis bon, il y a eu l'été aussi qui m'a laissé du temps... J'ai pas couru après le temps pour le terminer. Enfin, quoique aussi, un petit peu à la fin, mais ça va, c'était raisonnable.
Ok. Et la partie roman graphique, du coup, c'est quelque chose que tu laisses de côté pour l'instant ou
ben
il y
non,
a déjà
signé,
des choses
dans... J'ai signé aussi chez une autre maison d'édition, et là, ce sera pour dans un an, avril 2024.
Ok. Avril, c'est une période qui te plaît ?
Ben non, c'est eux qui m'ont proposé ça, en fait. J'ai pas tellement choisi. J'aurais bien aimé après l'été, parce que ça me laisse un mois et demi pour dessiner, mais... ça, j'ai pas eu le choix, en fait.
Bon, bah.
J'ai pris.
Bah écoute, déjà, pouvoir concrétiser un projet...
Oui, c'est chouette, ouais. J'ai de quoi faire.
Bon, bah, ce sera un rendez-vous à reprendre la suite.
Tout à fait.
Bon, on va refaire une petite pause musicale. Je garde Pitocha pour après. Là, je vais mettre... ce qu'on a fini, c'est les vacances. On va mettre un petit Alice Cooper avec Scowls Out. Avec mon magnifique accent anglais. Et on se retrouve sur le 100.5 de Radio G juste après. School's Out, for Summer. Bon, on est en printemps, pas tout à fait, sur le 101.5 de Radio G, mais c'est quand même les vacances, donc, mais on parle quand même de l'école. C'est vrai que quand j'ai dit à mes enfants, bah, j'aurai une maîtresse à l'émission ce soir, ils m'ont dit, bah, elles sont en vacances, elles ne travaillent pas. Eh bien, si, pourtant, un petit peu.
Et oui, oui, oui. Et ils auraient pu te dire aussi, bah, pourquoi elle ne reste pas à l'école, la maîtresse ? Elle ne dort pas à l'école
Ah, ils sont un petit peu grands pour
ouais,
ça maintenant.
C'est ça.
Mais du coup, c'est vrai que... On dissocie rarement en fait la maîtresse de l'environnement scolaire.
Bah oui, c'est clair.
On va parler un petit peu de BD. Je ne t'ai pas posé la question, tu lis de la BD ou
Oui, je lis de la BD. J'avoue que je suis plus roman, mais j'ai quand même une petite collection de BD qui grandit d'année en année.
Ok, ça te fait de la documentation au fur et à mesure ?
Oui, c'est ça. Et puis j'aime bien m'inspirer aussi de ce que je lis, voilà, les couleurs, les traits, les façons de faire. Je trouve que c'est enrichissant en fait, de lire toujours.
C'est clair. Et tu lis de tout ? Manga, comics, franco-belge ou,
Je ne lis pas du tout de manga, okay. Ni de comics. Je lis ouais, que de la BD franco-belge, même franco-franco.
Franco-franco. Okay.
Ouais.
T'as une BD préférée, une BD que tu relis avec plaisir régulièrement
J'adore Nos jours sucrés de Loïc
ça
Clément.
Parle pas. Ah, Loïc Clément, je vois qui c'est.
Ouais, et je ne sais plus comment elle s'appelle. Sur une jeune fille qui hérite de la boulangerie de son père, avec qui elle était fâchée, en Bretagne. Et donc, elle revient sur les lieux.
Je ne sais pas si je l'ai lu celui-là, ouais. En fait.
Je pourrais te le prêter si tu veux.
Bah écoute.
J'adore la couleur, les éclairages, le dessin. Le trait est assez simple et en même temps hyper poétique. Ouais, Nos jours sucrés, c'est chez Dargaud, je crois.
Alors, Les jours sucrés.
Les jours sucrés, pardon.
Chez Dargaud, le Clément et Anne Montel.
Anne Montel, c'est ça, voilà.
Yes, effectivement. Un duo qui marche bien,
oui.
Qu'on retrouve normalement dans la collection des Cœurs Brisés chez Delcourt, qui est consacré quasiment
oui.
Que aux albums de Loïc Clément.
Oui.
Et, mais on parlait tout à l'heure justement de harcèlement, de choses qui peuvent se passer à l'école. Je trouve qu'il aborde beaucoup les thématiques en fait, du vécu, du quotidien, et avec une justesse assez... Il épargne pas en fait les bobos que les enfants peuvent
non,
avoir.
Non, c'est clair, c'est vrai en fait ce qu'il raconte. Et bah, y a le côté, y a les émotions qui sont très très bien représentées et toujours de manière très belle en fait, même si ce sont des choses touchantes et même cruelles parfois, c'est bien fait.
Bah, écoutez, beaucoup de talent. Lisez-le, j'aurai l'occasion certainement de le lire et puis d'en reparler. Là, on parlait des jours sucrés de Loïc Clément et Anne Montel, qui est publié aux éditions d'Argo. Mais en règle générale, tout ce que fait Loïc Clément, faut y aller.
Hein, ouais, voilà.
Je pense que c'est une valeur assez sûre.
C'est clair.
Eh ben, je vais te sortir de tes sentiers battus. Alors, on va d'abord faire du franco-belge un petit peu.
Allez.
Quand même. Allez. Est-ce que tu as lu La Longue Marche ?
Non.
Des Dindes, pardon. La Longue Marche des Dindes. C'est un album de donc qui est dessiné et scénarisé par Léonie Bischoff et c'est basé sur un roman de Kathleen Carr qui a été publié aux éditions L'École des Loisirs.
D'accord, ah oui,
édition
okay.
Qui est souvent bien connue
oui.
Dans les écoles.
Oui.
Et bah, L'École des Loisirs a créé un organe de BD qui s'appelle Rue de Sèvres. Et du coup, on a beaucoup de transfuges de l'un à l'autre, des romans École des Loisirs qui deviennent des BD et des BD Rue de Sèvres qui deviennent des romans.
Je ne savais pas que c'était lié les deux, tu vois.
Bah, c'est la même structure okay. Au départ.
Ah bah, c'est bien, c'est bon à savoir.
Et là, La Longue Marche des Dindes, on est... Alors, je suis nul en histoire, mais on est aux États-Unis. Je ne saurais pas redire le 19e siècle, mais c'est grand le 19e siècle. Mmh. Et on suit un jeune garçon en fait, qui est un petit peu simplet, qui n'est pas très très bon. Il est dans la classe. Alors comme il le dit lui-même, la maîtresse doit l'aimer beaucoup parce que... Comment elle le dit ? Elle devait m'aimer aussi, vu qu'elle m'a fait refaire certaines classes deux fois. Et du coup, au bout d'un moment, bah, la maîtresse lui dit « Écoute, maintenant, je te félicite, tu peux partir de la classe parce que tu as appris ce qu'il te fallait.
Mmh. »
Et là, il se retrouve un peu perdu parce qu'il ne sait pas vraiment quoi faire.
Bah oui, il était bien là où il était, quoi.
C'est ça. Puis ça lui convenait bien. Et du coup, il est bien un petit peu simplet hein, quand même à la base. Et il se dit, mince, qu'est-ce que je vais pouvoir faire de ma vie? Et puis il apprend qu'il y a un petit paysan du coin qui élève des dindes, mais il en a beaucoup trop parce que ce sont bien reproduits. Puis ça vaut rien des dindes chez lui, mais que à Denver, il paraît que ça vaut très cher des dindes. Il décide de réunir tout son petit pécule aussi avec l'aide de l'institutrice et il va acheter ces dindes-là. Il y a une centaine de dindes et il va se décider à traverser tous les États-Unis pour aller vendre ces dindes de l'autre côté des États-Unis.
Beau voyage.
Un beau voyage, pas simple, puisque avant de partir déjà, il a plein d'embrouilles. Il y a des gens qui essaient la personne qui lui vend les dindes essaie de le gruger un petit peu. Mm-hmm. Puis lui, il est assez simple. Hein. Il a vu des gens marchander, donc il marchande exactement pareil. Et du coup, ça ne se passe pas comme il aurait voulu, ni comme le petit marchand aurait voulu. Et du coup, il part en road trip avec ses dindes, avec sa carriole et puis ses mulets. Et en chemin, il va rencontrer d'autres personnes qui, bien loin en fait, de vouloir abuser de lui, par sa candeur et par sa simplicité, vont décider de l'accompagner jusqu'au bout, puisque un peu comme Dorothy au Magicien d'Oz, le but de son voyage coïncide un petit peu avec le but des autres.
Mmh, okay.
C'est hyper agréable à lire.
Ça a l'air, ouais.
Le dessin en plus est ultra joli, ouais. C'est coloré, c'est vivant, c'est... je ne sais pas comment qualifier les personnages, mais ils ont une espèce de bonhomie et de sympathie
c'est
directe.
C'est chaleureux, les couleurs.
Et c'est vraiment ultra agréable. Ça casse un petit peu le coup à beaucoup de préjugés. De par justement la candeur du héros. Lui, tiens, je te le passe, tu peux le feuilleter. Lui, il ne se pose pas de questions, il n'a pas de préjugés, il prend les gens comme ils sont. Il rencontre à un moment un petit garçon noir qui a un esclave qui s'enfuit et qui du coup veut quitter l'état dans lequel il est justement pour éviter de se faire attraper par les esclavagistes. Et puis à un moment, il découvre en fait c'est une petite fille. Et c'est pas grave, ça change absolument rien pour lui.
Ouais, bah voilà.
Donc, mais vraiment moi quand je l'ai lu pour donner un peu de storytelling, je l'ai vraiment adoré cet album. Je ne connaissais pas le roman d'origine, donc c'était vraiment une découverte. Et l'album a été récompensé à Angoulême. Je l'ai appris il y a 15
D'accord,
jours.
Okay.
Donc, comme quoi, allez-y, foncez-y, ouais, les yeux fermés, clair, c'est vraiment très très bien.
Très
donc voilà. C'est un gros gros coup de cœur.
Je comprends.
Donc, La Longue Marche des Dindes, c'est publié chez Rue de Sèvres, c'est de Léonie Bischoff et de Kathleen Carr. Voilà, et c'est vraiment mon coup de cœur là de ce tout début d'année parce que ça marche vraiment du feu de Dieu. On était aux États-Unis avec une BD franco-belge. On va partir aux États-Unis avec une BD anglaise. Donc là, ça c'est du comics, mais c'est pas forcément du comics comme tu as l'habitude.
Oui,
c'est publié chez Urban Comics, c'est dans la collection Urban Kids, donc on est sur des formats un peu comics. Mais le but, c'est de toucher du jeune public. Donc, il y a moins de gros mots, il y a moins de violence, il y a moins de choses comme ça. Et pourtant, on nous présente Hellblazer, donc le mystère de la prof sans cœur, de Ryan North et Derek Charm. Et pour les aficionados du comics, Hellblazer, normalement, ça a des connotations mentales qui viennent assez vite. Hellblazer, c'est le nom de la BD qui garde John Constantine dans ses pages. John Constantine étant un détective anglais qui manie l'occulte, qui boit, qui jure, qui fume.
Tout ça.
Tout ça. Le personnage idéal, en fait, pour le transposer dans un univers pour enfants. Parce que tu lui enlèves ses clopes, tu lui enlèves son alcool et ses gros mots et puis son cynisme. C'est un personnage qui est très, très sombre. Il n'y a rien de positif chez
pas
lui.
Pas d'intérêt.
Et tu lui enlèves tout ça et tu essaies de le faire en personnage enfantin. Tu dis, bon, est-ce que ça va marcher? En plus, Constantine, à la base, c'est un Anglais. Là, en plus, on l'envoie aux États-Unis. Et tu fais, non, mais attendez, les gars, il y a un moment, il n'y a plus rien qui marche. Et bien, en fait, si, ça marche, puisque là, on retrouve Constantine qui, pour fuir un petit souci qu'il peut. Donc, il a 13 ans dedans. Et pour fuir un petit souci qu'il a eu avec un démon, un pacte qui l'a lié, décide de se planquer aux États-Unis, là où le démon va avoir moins de chances de le retrouver. Et du coup, il va se rendre dans un collège, si je ne me trompe pas, 13 ans, c'est collège. Hein.
Ouais.
Perdu.
C'est
ça fait longtemps.
C'est la cinquième.
C'est la cinquième.
Ouais.
Et il va se rendre compte que. Donc, il va se lier d'amitié avec une jeune fille. Alors, au départ, elle se lie d'amitié avec lui, mais lui, le poteron vit parce que c'est un bad boy un peu. Et il va se rendre compte que bah, la prof cache peut-être un grand secret. Et peut-être qu'il y a un tiroir, par exemple, qui ne s'ouvre pas, malgré toutes les tentatives, et qu'il y a peut-être un peu de magie là-dessous. Et en fait, ça marche. Le personnage de Constantine, bon, il a perdu un peu de son intérêt par rapport à ses qualités. Je te le passe comme ça, tu peux feuilleter en même temps. Mais ça marche. On retrouve ce côté un peu cynique. On a un dessin qui fonctionne bien, qui est enfantin, qui est assez rond et qui rend bien le côté un peu horrifique. Parce qu'on a quand même des démons, mais ils ont un côté un peu plus grand guignol, un peu cartoon. Et on a ce côté un petit peu effrayant qu'on pourrait retrouver dans les livres, les Herlstein, c'était les chairs de poule. Ouais. On a ce côté un petit peu chair de poule en essayant de faire un petit peu peur. Et en plus, la petite cerise sur le gâteau, c'est que non seulement on va pouvoir découvrir l'univers DC, DC Comics grâce à Hellblazer, mais on va aussi découvrir certaines informations sur le folklore américain, notamment les sorcières et ce qu'étaient les sorcières pour les natifs américains, et ce qui est hyper intéressant. Donc on a un ouvrage qui, sous tout rapport, ne me donnait pas envie au départ, qui marche bien, aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Je rappelle que j'ai toujours une bêta-testeuse à la maison qui ponctionne la bibliothèque de manière assez forcenée. Et elle l'a lu, elle me dit « Papa, tu l'as lu celui-là ?»« Non, mais il ne m'attire pas. Mais papa, il est trop bien !» Donc je me le suis laissé faire. Et au final, effectivement, j'ai passé un excellent moment avec cet album.
Super.
Donc ouais, voilà.
Super chouette.
Voilà. Si vous voulez découvrir le comics, si vous voulez découvrir Constantine, autre que par le film, il y a eu un film avec Keanu Reeves, c'est un bon moment.
Ouais, ça me fait quelque chose.
C'est un personnage assez iconique de DC Comics. Donc, je vous redonne les infos. Hop. C'est Hellblazer, le mystère de la prof sans cœur. C'est publié aux éditions Urban, dans la collection Urban Kids, et c'est de Ryan North et Derek Charm, et c'est vraiment sympa. C'est un récit complet, hein, vous n'avez pas besoin de vous lancer dans une grosse série. Si vous aimez, vous aurez d'autres tomes dans le même format ou dans la même collection. Il y a d'autres super-héros qui ont été rajeunis. Et la collection marche très très bien. Mais du coup, voilà, vous n'allez pas vous ruiner avec un ouvrage avec une histoire complète en un seul tome. Je vous propose de faire une toute petite dernière pause musicale. Et là, on part avec les Ogres de Barbac et Pitocha et la chanson « Touche pas à mon école ».
Petite sœur, il est quelle heure? Je t'écoute.
Il est midi, c'est l'heure du casse-croûte. J'ai une envie irrésistible de manger des araignées, des puces, des poux bien épicées, une horde de scarabées avec du beurre, enfin bref, des horreurs.
Mais si continue à toucher à mon école, le président à la casserole.
Petite sœur, il est quelle heure? Dis-le-moi vite.
Il est midi, allume le feu sous la marmite. J'ai cuisiné un fricassé de bracassé doré à souhait, un tas de trucs dégoulinants, très délicats à digérer, des asticots, des ragluants, des gros gugus un peu cramés, brouillants, bouillants, enfin bref, dégoûtants.
Mais s'il continue à toucher à mon école, le président à la casserole. Oui, s'il continue à toucher à notre école, le président à la casserole.
J'ai le ventre qui m'appelle.
Il est midi, j'ai fait chauffer les gamelles. On va goûter un velouté de vieux ministres avinés, relevés à l'Elysée, et de quelques lois à la noix, un pot-au-feu de députés, un patron qui pue les pieds et le fromage. Enfin bref, bon courage.
Mais s'il continue à toucher à mon école, le président à la casserole.
C'était Pitocha sur le 101.5 de Radio G avec touche pas à mon école. Voilà. Les ogres de Barbac, qui, ça commence à faire un petit moment qu'ils ont cette série Pitocha, hein, plus de 10 ans, je pense, qui est une série plutôt orientée jeunesse, mais et qui marche bien. On a parlé de dinde, on a parlé de Hellblazer, de mauvais garçons à l'école, et je vais partir du côté du Japon, du coup, avec les Furio. Est-ce que tu sais ce que c'est, Émilie ?
Non.
Émilie, ah mince, j'ai spoilé les gens.
Bah, tu peux m'appeler par les deux. C'est pas un secret.
Les Furio, alors, c'est un genre à proprement parler de manga, qui a donné aussi lieu à des films. Et ce sont des lycéens, des bad boys, dont la principale occupation est la bagarre. Et du coup, chez Pika Édition, ils ont sorti deux séries. Alors, il y a plein de séries de Furio. Les gens qui connaissent GTO, par exemple, Great Teacher Onizuka, c'est une série de Furio. Et c'est vraiment un genre qui est très, 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 très réputé et qui est pas mal recherché. Et il y a quelques temps, ils ont sorti, je vais le faire dans l'ordre, donc on va parler de deux séries de Furio. Une vraiment très récente, à tel point que bah, pour l'instant, elle n'est pas sortie. Et une qui est sortie il y a déjà un petit moment. La première, c'est Rokudenashi Blues. C'est sorti dans la collection Pika Masterpiece. Donc, c'est de Masanori Morita. Et déjà, la collection Masterpiece, on va en parler, ce sont des chefs-d'œuvre, en fait, qui sont considérés comme tels. Et ce sont des formats qui sont un petit peu hors gabarit. Là, Émilie peut témoigner. On a un manga classique. Là, on a le manga en collection Masterpiece. On est sur des formats qui sont beaucoup plus gros, mm-hmm. avec un nombre de pages qui est quand même assez plus qui est beaucoup plus conséquent. Là, on est sur 400 pages, alors que sur un manga classique, bon, on n'a même pas la numérotation. Donc, je suis un petit peu nul sur la numérotation de pages. Et puis, des fois, je ne vérifie pas avant. Donc, tant pis. Et Rokudenashi Blues, en fait, on va suivre un jeune homme qui se rend dans un lycée et qui est très bagarreur. Et il est nouveau. Et il va se retrouver au cœur d'un conflit entre deux clans. Le clan du club de boxe, donc le club de boxe qui aime bien la bagarre, et le club des supporters, qui normalement n'est pas un club de bagarreurs, mais qui là, techniquement n'a plus le droit d'exister parce que justement ils ont été trop bagarreurs et on leur a interdit. Et les deux clubs vont le vouloir parce qu'il a l'air d'être très très fort en baston. Mmh. Du coup, il va y avoir des petits conflits. Et puis, à un moment, le leader du club de boxe revient parce que lui, il était exclu à cause de trop de bagarres. Et ils vont se mettre sur le papot. Parce que c'est un petit peu le concept de ce genre de manga. Alors, pas que, parce qu'il y a des histoires d'amour, il y a plein de choses. Mmh. Mais c'est vraiment des mangas où il y a beaucoup de bagarres. Rokudenashi Blues, c'est un manga qui a quand même un certain âge maintenant, ce qui fait que le style graphique peut choquer un petit peu ceux qui sont moins habitués au manga. On est moins sur un style épuré, il y a beaucoup plus de trames, il y a beaucoup plus de choses comme ça dessus. Mais ça marche très très bien. C'est un manga qui est très dynamique. Dans les scènes de bagarre qui sont assez importantes, on a des choses qui sont très, très lisibles. Et c'est vraiment très intéressant à lire. Et le Furio, il y a aussi ce côté un petit peu... Il y a beaucoup d'humour dans le Furio quand même. Puisque là, on va passer... Il faudrait que j'arrive à trouver un passage. Mais on va passer sur des personnages qui vont faire des têtes hyper sérieuses à des personnages qui vont faire des grimaces très très déformées et c'est hyper agréable à lire, c'est vraiment très drôle et puis là dans celui-ci on a vraiment des bagarres qui vont aller jusqu'au point de les deux adversaires s'évanouissent et il n'y a pas de vainqueur.
Oui.
Donc voilà, c'est ça, il y a une espèce de grande fierté, il y a un côté très macho on va dire dans ces séries-là, mais il y a le côté ridicule aussi qui vient derrière.
Mm-mm. Elle a Nicky Larson un peu quoi.
Ouais, complètement, complètement. Moins orienté sexe quand même, ouais, que Nicky Larson, ouais, ouais. Même si ça passe très très bien. Donc Rokudenashi Blues, c'est chez Pika Masterpiece, c'est une série qui est... Alors, j'allais dire qu'il n'est pas très long, parce qu'il n'y a que 25 tomes, mais quand on voit la taille des tomes, il va quand même falloir une certaine étagère pour pouvoir les maintenir. Mais vraiment, si vous voulez une série dans un grand format, profitez de pleines pages, Allez-y, ça vaut vraiment le coup. L'édition est vraiment sympa. Il y a une surjaquette qui est classe. Et puis, si on l'enlève, on a vraiment un truc assez sobre, mais qui passe très, très bien. Donc, c'est vraiment un... faut y aller. Voilà. Laissez-vous tenter par le tome 1. Si vous n'allez pas au-delà, bah, tant pis. Mais moi, je vous le conseille. C'est vraiment si vous voulez découvrir le Furio, c'est une très, très bonne base à avoir. Et puis, si vous voulez découvrir le Furio, mais vous n'avez pas envie de vous plonger dans une vieille série, là, on a Windbreakers qui va sortir si je retrouve ma petite fiche, le 15 février. Donc, ça va venir très, très vite. C'est jeudi.
Oui.
Et là, on est vraiment sur une série très récente. Les deux premiers tomes seront disponibles simultanément en librairie. Et là, on est encore sur du genre Furio. Donc, le dessin est un peu plus moderne. Hein. Là, il y a moins de trames, il y a moins de traits parasites. On est sur un dessin qui... alors, j'allais dire plus simple, mais pas dans le mauvais sens du terme, non, en fait.
Il y a moins peut-être de détails, mais...
Voilà, il y a moins de... Mais la gestion des mouvements est aussi bien, bien gérée. On a des choses qui sont très lisibles. Donc, un manga où il y a de la bagarre, ça, c'est sûr. Et pour l'histoire, en fait, on va suivre un jeune garçon qui s'appelle Haruka Sakura, donc, qui a un prénom de fille à la base, mais ils ne font pas mention pour l'instant, donc ce n'est pas très, très grave. Et il a décidé d'intégrer le lycée Furin, qui est un lycée connu pour pour être le pire, en fait, de ce que peut faire le Japon, mais là où il y aurait le plus de bagarres. Et Sakura, lui, il n'a qu'un seul but, c'est de devenir le plus balèze des balèzes. Donc s'il veut aller dans ce lycée-là, c'est pour castagner un petit peu et montrer que c'est lui le plus fort à la baston. Et avant la rentrée, il va aller dans un quartier qui est à côté et il va découvrir à l'entrée du quartier une petite affiche sur laquelle il est marqué « À partir d'ici, le premier qui fait du mal à quelqu'un, qui casse quelque chose ou qui se livre à des actes malveillants, et ce, qui qu'il soit, sans aucune exception, sera puni par les Windbreakers.
Okay. »
Et en fait, les Windbreakers, c'est le nom du gang qui existe au lycée Furin. Et qui, Sakura va le découvrir, sont en fait des gars qui ont une très bonne réputation. Parce qu'ils ne font pas la bagarre pour la bagarre. Ils sont là, ils ont une sorte de côté super-héros, en fait, ou ce qu'on peut appeler les vigilants. Et ils sécurisent le quartier. Et lui, parce que la base que Sakura veut, c'est juste faire de la bagarre. Et à un moment, il va tomber face à des gens qui sont un petit peu trop forts et qui vont se faire défoncer, désolé pour le gros mot. Enfin, c'est pas un gros mot, mais
non.
Se faire taper dessus par les Windbreakers. Et à chaque fois, c'est ça qui est rigolo, c'est qu'en fait, Sakura a ce côté mauvais garçon qui aime personne parce que les gens, ils sont méchants avec lui. Et puis, alors qu'en fait, c'est lui qui veut être méchant avec les autres. Il aime pas les autres. Il veut être juste la bagarre. Et en fait, il se rend compte que tout le monde lui veut du bien. Et dans ce quartier-là, comme on sait qu'il va intégrer ce lycée-là, il est plutôt apprécié, ne serait-ce que parce qu'il a l'uniforme du lycée. Et du coup, il va vraiment aller à la découverte de ces personnages qui sont, on va dire, très hauts en couleur dans ce gang des Windbreakers et qui sont bien, bien loin en fait, du cliché qu'on pourrait avoir de la petite frappe qui fait régner la terreur dans le quartier. Donc c'est vraiment très agréable, c'est très frais. Le personnage, alors il a une dégaine, il y a un chara-design très très particulier, et les yeux verrons et les cheveux bicolores. On a poussé, c'est le seul personnage à avoir un look aussi extravagant, même si on en a qui ont des dégaines un peu particulières, mais ça marche très très bien. On évolue avec ce personnage-là, puisqu'on le suit avec son caractère et puis ses préjugés assez bourrin, et en fait on se rend compte que non, il y a plein de choses à faire, il y a plein de... Tiens, je le passe si tu veux.
Oui, merci.
Et c'est vraiment agréable, j'ai une belle surprise. Alors je connaissais pas vraiment le genre Furio avant de lire Rokunenshi Blues, et là ça marche bien. Le petit truc rigolo, alors je suis pas suffisamment calé en japonais pour pouvoir le vérifier, mais tous les personnages des Windbreakers ont des noms qui font référence à des arbres. Donc Sakura, c'est l'arbre de cerisier.
Oui, okay.
Mais tous les autres ont des personnages qui font et qui vont aussi donner des indices sur la façon dont ils se battent. Donc c'est plutôt stylé.
Ouais.
Le dessin est vraiment agréable à lire. Ça passe bien. Les phases de bagarre, elles sont plutôt rythmées et facilement lisibles. Ouais, même en une seule case, on voit très bien ce qui s'est passé. Il n'y a aucun problème à lire. Donc, c'est vraiment un bon passage. Je ne sais pas combien il y aura de tomes. J'ai mal fait mon travail. Mais voilà, la série comporte actuellement 8 tomes au Japon. Donc pour l'instant, c'est une série qui débute. Souvent, les séries de Furio, elles peuvent commencer à avoir un certain nombre de tomes qui peut être conséquent par la suite. Mais bon, ça reste... quand on les fait au fur et à mesure, un tome par mois ou tous les deux mois, c'est pas ruinant. C'est juste qu'il faut avoir parfois les étagères.
Oui, avec. C'est ça.
Hop.
That's all, folks.
Et oui, vous venez de l'entendre, c'est Porky qui signale l'arrivée de la fin de l'émission. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Moi, j'ai passé un bon moment avec Emibill. Je vous redonne ses réseaux sociaux. Donc, Emibill PMTC, que ce soit sur Facebook, Instagram, Twitter, et pour mieux te croquer, le blog, ouais. Si vous n'avez pas envie d'échanger avec elle, mais ce serait quand même dommage. On se retrouve dans 15 jours pour parler de nouvelles BD. Et puis, en attendant, n'oubliez pas de lire, il paraît que c'est intelligent.
Ah bah vous avez de la chance, parce que moi j'ai appris à lire, je souhaite ça à personne.
Sauvez-vous tous !
Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis, message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman, et venons-en au fait.
Trompez vite! Tu n'es pas chez toi ici!
Justement! Les touristes de bord!
Nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
T'es toujours là, toi? Mais c'est fini! Rentre chez toi!